Chapitre 44. Plus jamais il n'avait reparlé de l'épisode de la morgue. Ce jour-là, Julie était morte. Le point de non-retour avait été atteint dans la souffrance, l'humiliation et la peur. Pendant les semaines, les mois qui suivirent, son esprit s'était détaché de son corps, avait flotté et était parti ailleurs, n'abandonnant, sur le lit en fer de sa geôle, qu'une enveloppe vide, un organisme inerte que les poids magiques avaient achevé d'éteindre. Et puis ces mois étaient devenus des années, beaucoup d'années qui s'enchaînèrent entre addiction et sevrage, douleurs insupportables et éternel silence, punition, récompense, veille et sommeil. Elle n'était plus qu'une bête dans une cage, à moitié folle, se contentant la plupart du temps de s'alimenter, dormir, vieillir. Vieillir. Il lui arrivait certaines nuits, après un rêve, de se rappeler son ancienne existence. Le monde libre de son enfance, une sorte de vie antérieure. Elle revoyait alors des scènes, comme cette fois où, installée sur une plage en compagnie de ses parents, elle avait fabriqué un mannequin avec une noix de coco coiffée d'un chapeau de marin en guise de tête et des bambous pour les jambes et les bras. Et elle avait entendu son père rire, lui qui n'avait pourtant presque plus de visage. Puis, après quelques secondes seulement, tout s'était effacé, laissant place au néant. En réalité, ce n'était pas son père qui avait ri. C'était vendredi, le vendredi du roman de Tournier. Elle en avait pris conscience plusieurs jours plus tard en découvrant l'intégralité de son souvenir dans le chapitre 23 du livre. Inconsciemment, elle avait volé un bout de l'histoire pour remplir les trous de sa mémoire. Et ça la terrorisait, parce qu'elle n'avait aucun moyen de différencier le vrai du faux. Son passé n'était finalement peut-être que la somme de morceaux de bouquins. Combien y avait-il eu de Noël depuis son tout premier ici? D'anniversaires? De cauchemars? De parties d'échecs jouées, de labyrinthes et énigmes résolues, de plateaux repas ingurgités et régurgités. Elle l'ignorait, mais si elle se fiait au rythme de publication de Traskman, ça devait faire au moins 6 ans, ou 7, à moins que ça ne fasse déjà 8. 8 ans à frapper aux portes de l'enfer, à renaître et mourir en permanence. Qui pouvait survivre ainsi? En attendant, Caleb, lui, avait connu un succès retentissant avec Dans les yeux des autres, que les médias avaient qualifié de chef-d'œuvre de la littérature horrifique. On disait que, après une longue traversée du désert débutée avec Senon, l'inspiration de cet écrivain d'ordinaire prolifique était revenue à son meilleur niveau. L'intrigue était centrée sur une jeune fille à qui on avait greffé les yeux d'un homme mort accidenté, Yael Gotham. Elle se mettait alors à voir les choses abominables, séquestration, torture, que Gotham avait commises par le passé. Traskman en avait écoulé des centaines de milliers d'exemplaires. Un passage en particulier avait marqué Julie, au point qu'elle pouvait le réciter mot à mot. La société virerait au chaos sans criminels de la trempe de Gotham. Ils sont les visages du mal, la négation de l'humain et, au fond, nous rassurent. Car nous estimons que nous ne sommes pas comme eux. Nous avons besoin de ces visages, de cette mise en pâture sordide des actes les plus abjects, pour éviter d'avoir à regarder ce qui se passe dans notre propre maison. Mais en vérité, nous sommes tous le monstre de quelqu'un. Traskman avait rédigé une partie de ce roman et des 4 suivants à l'intérieur de sa geôle, désormais aménagée en un véritable petit studio, puisqu'elle bénéficiait d'un salon, d'une bibliothèque, d'un réfrigérateur et même d'un téléviseur en hauteur, mais qui ne disposait que d'une chaîne diffusant des films policiers ou d'horreur en continu. Dans ces moments où il s'installait dans le fauteuil et inventait ses histoires, Julie n'avait pas le droit de bouger de son lit, mais elle se sentait moins seule. Il lui confiait souvent ses pages manuscrites chapitre après chapitre, au fil de sa création, comme il y avait fort, fort longtemps au chalet du lac Noir. Et quand elle les parcourait, Traskman s'arrêtait d'écrire. Il se mettait à aller et venir, la fixant tel un fauve à l'affût, dans l'attente de son verdict. « Alors, c'est bon? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu penses que ce personnage manque de profondeur ? Il n'espérait de sa part aucune flatterie, au contraire. Il s'énervait d'ailleurs si elle prétendait que tout était parfait. Sa démarche était sincère. Il l'écoutait et ajustait si nécessaire. Elle lui apportait des idées, un point de vue, il prenait ou il jetait. Il avait besoin d'elle, et elle de lui. Elle conseillait son bourreau, discutait avec son kidnappeur, lisait les livres d'un tueur. Un jour, elle avait même ri à une de ses anecdotes, et ça lui avait déchiré le ventre. Elle s'en était voulu des semaines durant. De la même manière qu'elle s'en était voulu de ressentir une réelle tristesse lorsqu'il lui avait parlé de sa femme folle, de son enfance dans les foyers où il avait subi toutes sortes de maltraitances, de son fils qu'il avait eu beaucoup trop jeune et qui le détestait par-dessus tout. Ces émotions qui la submergeaient parfois, ça n'était pas explicable, encore moins rationnel. C'était plutôt de la survie. Mais si elle riait ou pleurait devant lui, ça ne l'empêchait pas de s'imaginer en permanence lui enfonçant un couteau dans le cœur. Au plus profond d'elle-même, chaque heure de chaque jour qui passait, elle maudissait son évasion avortée, cette terrible fois où son arme de fortune avait ripé sur les côtes. Au fil des ans, ses conditions de détention s'étaient donc sensiblement améliorées. Elle était un objet de ce psychopathe et tant que l'objet restait à sa place, tout allait bien. Il ne la touchait pas, ne la violait pas. Une muse était un être sacré qu'il fallait préserver. Ça faisait même plusieurs années qu'il l'emmenait régulièrement sur la plage, toujours au cours de nuits sans lune. Pour l'occasion, Caleb exigeait qu'elle s'équipe de patins à glace privés de leurs lames. Il serrait fort les lacets. Ainsi chaussé, il lui était impossible de fuir. D'autant qu'il attachait également son poignet droit au sien à l'aide d'une cordelette noire. Ensemble, côte à côte, ils parcouraient alors le labyrinthe dont elle n'avait pas su s'échapper, et si Traskman lui bandait soigneusement les yeux, elle veillait à se concentrer, compter le nombre de pas, mémoriser les changements de direction, jusqu'à être capable de se représenter mentalement le chemin qu'ils empruntaient. Presque malgré elle, une partie repliée de son esprit continuait à chercher des solutions de fuite. Une fois dehors, il marchait sur du sable, d'abord sec, puis dur, pendant 10 longues minutes. Quand il lui ôtait son bandeau, elle se trouvait au bord de l'eau, au milieu de nulle part. Traskman lui avait raconté qu'ici, dans la baie, la mer pouvait se retirer à plus de 3 kilomètres. Elle percevait, loin, très loin sur la gauche, la pulsation d'un phare. Quelques scintillements d'une ville accrochée à la côte. La vie. C'était là-bas qu'elle rêvait d'aller. Même dans l'obscurité la plus complète, Julie avait longtemps prié le ciel pour qu'ils mettent sur leur route des promeneurs égarés ou des pêcheurs qui revenaient du large sur leur chalutier. Mais il n'y avait pas davantage d'hommes que de bateaux. Et tout ce qu'elle rapportait dans sa cage, c'était des odeurs d'algues et de sel. Parfois, selon la saison, elle entendait le cri des oies sauvages. Il n'y avait pas plus libre qu'une oie sauvage. Julie les aimait autant qu'elle les détestait. Un jour, Traskman commença à évoquer un projet qu'il avait en tête. Ça faisait 1 an qu'il n'avait rien écrit, et l'envie de créer l'obsédait de nouveau. « J'ai peut-être un ersatz d'idées pour mon prochain livre. Je retracerai le parcours d'une romancière dont la fille aurait disparu. Une romancière qui habiterait ici. » Dans ma maison, sur la côte du Nord. Et cette fille disparue, ce serait toi, Julie. Tu ne t'appellerais pas Julie, bien sûr. Je ne vais pas non plus me tirer une balle dans le pied. Mais ça pourrait être notre histoire à tous les deux. Enfin, une certaine vision de notre histoire. Quelque chose de totalement différent, de... symbolique. Seul toi, moi, et quelques autres comprendrions. Quelques autres... Il parlait des sales pervers de sa trempe, ceux de la morgue. Tout ça lui donnait la nausée. Pourtant, Julie l'encouragea. Elle n'avait pas le choix. Régulièrement, il se pointait, s'installait dans son fauteuil avec un carnet de notes, entamait de longs monologues, se levait et déambulait comme un comédien en pleine répétition. Dans ces moments-là, il lui arrivait de s'énerver. Parce qu'il ne trouvait pas l'angle d'attaque ou qu'il était confronté à un problème de construction. L'organisation du réseau criminel est très claire. Ça n'est pas ça le souci. Mais il me manque quelque chose. Le twist final qui rendra ce bouquin unique, tu vois? Je veux en faire le plus effrayant des Traskman. Le meilleur aussi.
Le précédent était le meilleur,
répliqua Julie entre deux pages des raisins de la colère. Alors le suivant devra le surpasser. Ainsi bâtissait-il ses intrigues, par couches successives, renforçant, semaine après semaine, leur structure narrative. Il comparait souvent ce travail à celui d'un horloger suisse. Le plus difficile n'était pas d'assembler les pièces, c'était que la montre affiche l'heure exacte une fois les engrenages en place. Il lisait donc beaucoup, se documentait, peaufinait. Puis il commença à donner vie à cette écrivaine, Léane, qui survivait à peine à la disparition de sa fille Sarah. Après l'agression de son mari dont elle était séparée, elle revenait dans sa maison au bord de la baie de Loti pour enquêter. Caleb ne tenait ni le titre ni la fin de son roman. Il racontait que ces détails jailliraient au fil de l'écriture. Même dans ses périodes de création intense, il continuait à s'absenter plusieurs jours d'affilée et, quand il réapparaissait, il reprenait le cours de sa pensée, comme si de rien n'était. Mais il y avait un maudit éclat dans son regard qui n'échappait pas à la jeune femme. L'éclat du prédateur, du monstre, de cette facette qu'elle essayait de tenir à distance autant que possible. Un soir, Traskman lui rendit visite. Il était très pâle, ses épaules étaient voûtées. Il avait pris 10 ans d'un coup. Il n'était pas dans son état normal. Une bouteille de whisky à la main, il alla s'effondrer dans le fauteuil. Julie se tut, l'observa. Il plissait son front avec ses doigts, les yeux rivés au sol. Après un instant, il finit par relever la tête vers elle et lâcha d'une voix blanche. « Quelqu'un est venu ici, dans ma maison. Ah, un homme dont j'ignorais l'existence. » Elle se redressa, alors que son cœur s'affolait, car elle s'était aperçue que, pour la première fois depuis des siècles, elle n'avait pas entendu le déclic si familier indiquant la fermeture de la porte d'entrée. Son esprit lui avait-il joué un tour? Ou était-il possible que Caleb ait laissé ouvert? S'agissait-il d'un piège? Avait-il oublié, après toutes ces années sans avoir commis la moindre erreur? « Qui est venu ici ?» demanda-t-elle. « Mon frère jumeau. »